En 2008, Nicolas Cage ira faire un tour à Bangkok. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis comme toujours accompagné par Julien Asuncao. Salut Julien.
Salut Alexis, tu m'as l'air bien pressé aujourd'hui. Chill un peu là.
Non, je sais pas, je suis juste énervé.
T'es excité de parler de Bangkok Dangerous, je comprends.
Exactement, voilà, parce qu'aujourd'hui on va parler de Bangkok Dangerous.
Mais oui, Bangkok Dangerous, donc qui est un remake du film du même nom. Et des réalisateurs du même nom, puisqu'il s'agit donc des frères Pang, donc Danny Pang et Oxid Chun Pang, avec dans les rôles principaux. Alors j'espère que je vais écorcher le nom de personne, parce que pour ma défense, il y a quelques noms pas faciles à prononcer. Donc on a Chakrit Yamnarm, Charlie Young et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. De quoi ça parle? Ça va nous parler de Joe. Donc, qui est le personnage joué par Nicolas Cage, qui est un tueur professionnel et qui atterrit à Bangkok afin d'exécuter 4 contrats pour le compte d'un chef mafieux local. Mais lui qui a toujours évolué en solitaire, hein, comme tout bon tueur professionnel, hein, il se retrouve finalement à prendre sous son aile un jeune pickpocket et puis en parallèle à s'engager dans une relation sentimentale avec une préparatrice en pharmacie sourde et muette. Donc on a l'histoire assez classique du tueur professionnel qui a de l'expérience et qui d'un coup s'est coupé du monde et des gens pendant toute sa carrière et puis là se retrouve à se lier d'amitié ou d'amour pour d'autres personnes et on imagine bien que ça va affecter son travail.
Probablement.
Est-ce que tu as vu ce film, Alexis?
Non. Non. Je sais que toi, t'as une petite histoire par rapport à ça, et je sais que tu l'attends. Alors, parce que il faut quand même le dire, parce qu'on l'a pas dit, je voulais le dire, j'ai oublié de le dire, et ça m'embête.
Mais c'est maintenant.
Bienvenue dans Citizen Cage pour la 3e année de Citizen Cage. Bravo à tout le monde, parce qu'on commence la 3e année de Citizen Cage avec ce film Bangkok Dangerous, qui est un film que non, j'ai pas vu. Mais comme je viens de dire, toi, t'as une histoire un peu particulière avec ce film-là.
Alors, j'ai l'impression que tu vends beaucoup le truc, Alexis, mais les gens vont être très déçus. l'histoire, c'est juste que j'ai vu le film, en fait.
Donc,
pas ouf, quoi. Non, mais si, alors... J'ai un souvenir très, très, très vague du film.
Mais c'est juste pas ce film-là que t'as en DVD que tu voulais attendre.
C'est à cette histoire-là.
C'est à cette histoire-là que je parlais.
Ok. Effectivement. Alors déjà pour commencer, donc c'est un film donc très peu de souvenirs, mais que j'ai vu et que le seul souvenir que j'ai, c'est que quand j'avais vu ce film, toutes les 5 minutes à peu près, je me disais mais c'est pas possible. Non, j'avais un très mauvais souvenir. Enfin, ça m'a de mémoire, c'était vraiment nul. Enfin, c'était assez mauvais, c'était pas dingue. Parce que j'ai vu aussi l'original.
Oui, alors par contre, c'est ça, j'ai vu l'original. Pas vu de Bangkok Dangerous de Nick Cage.
Voilà, j'ai vu le remake après l'original, donc c'est pour ça que, juste pour expliquer un peu pourquoi je me disais, mais c'est pas possible. L'original, déjà de base, pour en parler rapidement à ce moment-là, c'est un film que j'aime bien. Que j'avais bien aimé, mais sans non plus que ça me retourne le cerveau non plus, quoi.
C'est correct, quoi. C'est un film correct.
Il y a cette patte, un peu... des thrillers, c'est pas vraiment un thriller, mais c'est des films d'action asiatique qui sont pas juste juste rigolo, mais qui a un petit côté un peu cracra, un peu voilà, enfin qui a une vraie ambiance, même visuellement, au niveau des lumières, des choses comme ça. Après, sur l'histoire en elle-même, le contenu et tout, bon, c'était pas, ça m'avait pas, voilà, ça m'avait pas marqué plus que ça. Et mais par contre, ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu le regarder ce remake, ça n'a aucun sens, parce que bon, le projet a pas grand-chose pour faire rêver en fait. Si c'est juste le même film avec Nicolas Cage, alors si tu peux me dire, là je viens de dire un pitch qui a l'air super intéressant, le même film mais avec Nicolas Cage. Mais bon, en soi, à l'époque, je pense pas que c'était pour ça que j'avais regardé. Enfin, je sais même pas pourquoi. J'ai dû tomber dessus. Mais bon, voilà. Ça m'avait pas plus passionné la version américaine. Donc voilà. Et pour parler de la petite histoire, effectivement, quand on a créé le podcast, j'ai une copine qui m'a offert le DVD de Bangkok Dangerous. Que je sais pas s'il traînait chez elle ou qu'il était dispo. C'est sûrement le DVD de Nicolas Cage qui est dispo le moins cher en magasin. Hein.
Probablement, ouais.
Donc ça peut expliquer cela. Il n'y a pas l'étiquette du prix dessus, mais effectivement, je vais pouvoir le sortir. Enfin, normalement, c'est ce que je dirais. Sauf que, en fait, j'ai nulle part où lire un DVD, mais je vais trouver une solution. Parce que ça m'intéresserait de, pour une fois que j'ai un DVD sous la main. C'est vrai qu'à l'ère numérique, hein, c'est quand même, parce que c'était bien mieux avant, hein, comme oui. Il faut toujours le rappeler. Hein. non, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir un peu des bonus ou des making-of, des machins comme ça. Mm-hmm. Et peut-être que ça va être intéressant sur celui-là. En tout cas, ça a une valeur ajoutée. Quoi.
Bah, surtout qu'il paraît qu'il y a une fin alternative, donc ça veut probablement dire qu'elle sera sur ton DVD.
Ah oui, ok.
Donc... Alors après, juste un truc que je voulais juste parler rapidement parce que je trouvais ça assez intéressant, c'est que en fait, donc Nicolas Cage a une société de production qui s'appelle Saturn Film, et c'est cette société de production. Donc en général, j'ai l'impression que ça a l'air d'être sous les ordres de Nicolas Cage.
Je montre à Alexis mon DVD parce que j'avais pas fait gaffe, mais en fait, il était vraiment juste posé à côté de moi, quoi. Mais c'est marqué dessus, bonus, le making of, la fin alternative, donc oui.
Ah bon, voilà. Parfait. Et du coup, ça veut dire que probablement, il y a un meeting qui s'est passé où Nick Cage a eu envie que sa société de compagnie... Sa compagnie de
société. Production... Ah, ça ne marche toujours pas.
Si, sa compagnie de production, ça marche.
Oui, non, mais sa compagnie de société...
Oui, bah non, sa compagnie de société a voulu acheter les droits du remake parce qu'il voulait faire ce remake. Donc je trouve ça intéressant, un peu de la même manière où des gens comme Jean-Claude Van Damme ont fait venir même, John Woo aux USA, peut-être oui. Que Nicolas Cage voulait faire venir les Peng Brothers, les frères Peng aux USA pour qu'ils fassent un film, ce que je trouve en fait assez intéressant. J'ai aucune idée si c'est vrai, par contre.
C'est bien.
Juste des spéculations.
Oui, oui. Apparemment il l'a payé 7€. Si on peut lancer des rumeurs.
Et ok, bah, ouais. Voilà.
Mais je vais en profiter que j'ai le DVD sous les yeux, hein, parce que je vais vous lire la tagline française sur le film.
Ah,
du
parfait.
Coup, c'est « Un seul lieu, une seule règle, tuer ».
Ouf.
Déjà, ça donne envie.
Oh.
Et si je peux vous le lire derrière pour vous donner encore plus envie. « Dans la lignée du transporteur ».
Ouf.
La référence.
C'est un peu une bonne chose, mais c'est la référence, ouf.
Bah apparemment, en même temps c'est TF1 vidéo, donc bon. Dans la lignée du transporteur, un thriller explosif au rythme effréné et fracassant, sous fond de violence urbaine. Nicolas Cage, au sommet du genre action, interprète un tueur professionnel parcourant les rues d'un Bangkok survolté et chauffé à bloc. Course-poursuite, cascade, fusillade, tous les ingrédients réunis pour... un pur moment d'adrénaline et de sensations fortes.
C'est vrai donc que TF1, ils connaissent bien la violence urbaine, donc ils savent de quoi ils parlent.
C'est ça, donc oui, je pense que ça a vraiment été écrit par merde, comment il s'appelle, du coup, je m'avane, tombe à l'eau.
Par Nicolas Cage.
Par Luc Besson, voilà. C'est ce que...
dans ma tête, j'ai cru que t'allais dire par Pierre Belmar, puis j'ai dit, ok, très bien.
C'est terrible comme fin de carrière quand même. Arrête, il y a quelqu'un dont c'est le métier d'écrire ce genre de truc pour les DVD de TF1 Vidéo, donc
Mais je pense que cette personne, elle regarde juste pas les films, hein. C'est juste genre, tiens,
ah bah oui, elle place des adjectifs.
Violence urbaine, rapide, dans la vie de Transformers.
C'est Transporteur, hein, pas Transformers. Parce que là, c'est encore plus bizarre. J'ose même pas imaginer à quoi ça peut ressembler, mais...
Bon, je pense que c'est assez de gaudriole, assez de fun. Maintenant, c'est le moment d'être sérieux, d'aller regarder le premier film pour notre troisième année de Citizen Kane et de revenir une fois qu'on a vu le film.
Ok, ça marche. J'allais dire, mais que demander de mieux comme film pour commencer sa première année? Et la réponse est plein de films.
Beaucoup de films. Mais il faut avouer que ça va super bien avec le fait que t'es ce DVD qui t'attend et c'est que vrai. Tu m'avais dit qu'il t'attendait depuis le jour où on avait commencé le podcast. Et donc voilà, ça nous permet de souligner ce moment-là en disant c'est le premier film de la troisième année et c'est pas si mal.
Allez, c'est parti.
À tout de suite. Rain. Rain. Is you? Your name means rain? This is your name. Et on est de retour après avoir vu Bangkok Dangerous des Peng Brothers. Des frères Peng, en fait. Je sais pas pourquoi... Il y avait pas...
Ouais, ça fait plus de classe en anglais. On a presque l'impression que c'est bien réalisé.
Oh putain.
Je préviens tout de suite. J'ai l'impression que je vais avoir du mal à beaucoup parler de ce film parce que je sais pas. J'ai l'impression de j'étais devant le film, mais j'étais pas vraiment là, quoi.
C'était j'ai eu la même. Je l'ai regardé un peu en soirée pendant que ma copine jouait à D&D dans sa chambre là. Puis j'étais juste genre. Et ça a l'air, je pense que je vais juste aller voir ce qu'elle fait parce que c'est probablement plus intéressant.
Moi le truc c'est quand je regarde c'est comme ça avec un casque Bluetooth donc qui est main libre on va dire, t'as vite tendance à se dire bon alors vu qu'il se passe rien je vais faire un petit coup de ménage là puis voilà un peu de repassage non ouais bon on va attaquer sur le résumé mais c'est vrai que j'aurais peut-être des petits moments où j'aurais des coupures dans le temps.
Oui, oui, oui. Ah, mais ouais.
Il y a un personnage qui se téléporte, mais en fait, je sais pas si c'est le film ou si c'est moi. sûrement un peu des deux. Mais j'imagine que le résumé va être assez rapide.
Ce serait bien pour une fois. On va essayer de...
C'est vrai. C'est pas qu'il n'y a pas de choses à dire, mais en tout cas, c'est assez classique, on va dire, sur la construction et sur la structure du film. Et surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de scènes que ça, mais qui sont un peu étendues, quoi. Un peu poussées sur la longueur des fois, et qui fait que si tu résumes vraiment en découpant les différentes scènes, bon.
C'est un film qui dure 1h40, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand tu as fini le film, tu as l'impression d'avoir regardé 25 minutes de quelque chose. Ou 30, là, déjà, ou 2 heures.
Oui, puis t'as l'impression d'avoir vu un film que t'avais déjà vu. Alors, il se trouve que je l'avais déjà vu. Donc, bon, peut-être que c'est ça qui joue aussi. mais voilà, oui, quand c'est un remake, qu'en plus tu l'as déjà vu, oui, c'est vrai que ça fait une impression, une double impression de déjà vu, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense pas que ce soit la seule raison. Bref, on attaque.
Allez.
Et comment ça commence déjà? voilà, premier trou noir, dès le début. Non, en fait, ça commence, en gros... On
commence avec une voix off, voilà.
C'est ça, beaucoup de voix off, la fameuse... Donc là, c'est le tueur qui nous explique, en gros, hein, qu'il a des règles, que c'est très important de respecter les règles dans son métier. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont à peu près tous les mêmes règles entre tueurs, comme ça, à gage.
Ouais, bah oui.
La première règle, c'est toujours ne pose pas de questions.
Ouais.
Là, je sais plus. La deuxième, ça doit être ne regarde pas ce qu'il y a dans le colis. Et puis après, on a quoi? Je sais plus ce qu'on avait exactement d'autres, mais en gros, voilà, il faut pas poser de questions. C'est pas important si le mec que tu tues est gentil ou méchant.
Ouais, y a pas de gentil ou de méchant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment noir.
Ah oui, la troisième règle, c'est. Ne laisse pas de preuves derrière toi. Ah bah oui, malin.
Ah ouais, ouais, efface toutes tes preuves.
C'est bien de l'avoir noté sur écrit, celle-là.
Et ne tombe jamais, n'engage jamais avec des personnes en dehors du travail. Donc genre, soit triste, soit malheureux, soit tout seul. Très bien.
C'est ça, il ne faut pas te laisser toucher par les autres.
Et je crois qu'il a encore une dernière règle. Alors, je ne sais pas s'il a dit qu'il n'en a que 4, mais il en a 5, ou alors s'il dit qu'il en a 4 et nous, on en a juste, on en pense à plus, mais il a une dernière règle qui est genre, dès que tu commences à penser que tu en as marre de tuer des gens, ça veut dire que c'est genre, faut que tu arrêtes, c'est la fin, faut que tu sortes de ça.
Ouais, je ne suis pas sûr que c'est une règle, c'est pas une règle. Après.
Bon, en tout cas.
Effectivement, donc là, on le voit aussi, on le voit donc en train de réaliser un meurtre. Bon, voilà, pour nous montrer que c'est vraiment quelqu'un de très méthodique, c'est ultra précis. Il va tuer quelqu'un pile au moment de, sur les, je sais plus quelle heure il est, mais genre sur le coup de minuit, ouais. Au moment où la cloche sonne, il tire à ce moment-là, voilà. Bon.
Yo, t'as beau dire ce que tu veux, là, mais quand t'es à côté d'une cloche et que tout ce que tu portes c'est des écouteurs. Quand la cloche elle sonne, tes oreilles elles vont saigner. Il n'y a pas de. Enfin. Mais en plus, au début, j'étais genre, mais pourquoi t'es là? T'es vraiment con. Si tu tires, ça va résonner dans le. Ça va résonner dans la cloche. Je comprenais pas. Mais bon, bref.
Effectivement. Et je me demande, il n'y a pas un hitman où tu dois faire un truc comme ça?
Oh, bah, sûrement, oui. Sûrement.
Oui, oui, c'est pratiquement obligatoire. C'est... Et donc après, là, il se retrouve à Bangkok.
Dangerous.
Bah, tout simplement pour... oui, c'est une ville dangereuse. Il se retrouve à Bangkok pour une série de... J'allais dire de missions, mais non. Ça fait un peu trop jeu vidéo, ça. Une série de, voilà, de meurtres qu'il doit réaliser pour le compte de... On ne sait pas qui.
De 4 meurtres qu'il doit réaliser pour la même personne, ce qui est un peu con. Et qui, bon, qui est censé justement lui donner juste suffisamment d'argent pour quitter, quoi, pour arrêter sa job, puis juste partir en vacances ensuite.
Et on a juste pour préciser un truc qu'on n'a pas forcément dit, à la fin du job d'avant, qui était à Prague, en fait, il a tué une personne qui l'avait aidé. Oui. Voilà, qui l'avait aidé dans sa mission, et il l'a tué en faisant croire que c'était à une overdose. Ça va avoir une importance parce que, évidemment, je pense que vous voyez le truc venir.
C'est son pattern. C'est son... Il trouve quelqu'un sur place qui parle anglais. Bah, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il fait ensuite. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver une personne qui parle anglais, qui est un peu affamée, qui veut de l'argent. Voilà, qui est aussi un petit voleur à la sauvette. Comme ça, il est genre, ok, c'est quand même quelqu'un qui a pas de problème à opérer en dehors de la loi, puis il lui propose en gros 3000 bahts, ce que j'ai checké, qui est en fait 126 dollars par jour pour qu'en gros il aille lui chercher les informations, en fait, parce que lui n'a jamais aucun contact avec la personne donc qui s'appelle Surat, qui est la personne qui veut assassiner toutes ces personnes. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il envoie ce gars-là qui s'appelle Kong, qu'il a décidé d'embaucher, il envoie dans une boîte où il doit parler à une danseuse qui, elle, doit lui donner une mallette qu'il doit ensuite ramener à Joe. Et dans cette mallette, en général, il y a les ordres, comment est-ce qu'il doit mourir, voilà. Puis c'est pas mal, c'est une boucle en fait. Il fait ça 4 fois.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un MMORPG, quoi.
Un peu, c'est vraiment drôle. Hein. C'est parce que tantôt tu parlais de jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est très. C'est le narratif est monté comme un jeu vidéo. C'est là, tu reçois ta mission, tu vois là, t'as le nom de la cible, comment l'assassiner, puis là il s'en va, il va faire la mission. Et il finit par réussir la mission, puis là on lui donne une autre mallette, puis il faut qu'il recommence. C'est vraiment genre, ouais, avec une cinématique entre les deux, quoi.
C'est ça qui crée un petit peu aussi l'ennui, on va dire. C'est que il y a quelques scènes qui se veulent impactantes, justement les scènes de meurtre.
Oui.
Mais voilà, sur le reste, ça n'a pas trop intérêt. Alors là où ça va être intéressant, en fait, c'est plutôt voilà, les relations qui vont un peu se nouer entre les différents personnages. Parce qu'on a justement Kong, qui lui va se lier de... Enfin, qui va tomber amoureux, a priori, de la danseuse.
Exact.
Donc, ils vont se rapprocher l'un l'autre. Et puis après, il y a évidemment la relation entre Joe. Je ne sais pas si on a dit que c'était son
prénom. Ouais, ouais. Non, Nicolas Cage.
Dans le film. Et Kong, justement.
Et aussi un autre personnage qui va arriver un peu plus tard.
Ouais.
Mais oui, voilà, c'est vrai que au début on se rend compte que Joe est très froid. C'est vraiment une personne qui est très méthodique et calculée, et il en a plutôt rien à foutre de Kong. Il lui explique très très rapidement, en termes vraiment succincts, courts, que s'il est en retard, il n'est pas payé. S'il ne fait pas ce qu'il lui demande, il n'est pas payé. Si jamais il se fait arrêter par la police, il n'est pas payé. Blablabla. Et d'ailleurs, pour vérifier que ce gars-là fait le travail comme il faut, la première soirée, il le suit. Il le suit et il s'assure que le gars fait un peu ce qu'il faut. Et Kong, malheureusement, prend les règles de Joe un peu trop à cœur. Une des règles de Joe était littéralement tu t'arrêtes pour aucune raison. Donc lui, parce qu'il est con, il prend ça vraiment littéralement. Il décide de même pas s'arrêter à un feu rouge. Ce qui fait qu'il se fait poursuivre par la police. Après, il réussit à s'enfuir parce qu'il est en mobylette et tout ça. Mais Joe lui dit pas de police, quoi, genre. C'est genre, je m'en fous, là. Ce qu'il y a dans la mallette, il faut jamais que ça arrive à, genre... Il faut que personne d'autre, à part moi, voit ce qu'il y a dans la mallette, genre. Ça, c'est genre le plus important pour lui. Et là, il tue la première personne de manière assez, assez cool, on va dire, pour être honnête.
Oui, voilà, c'est les scènes qui sont un peu, à chaque fois, un peu sympas, quoi. Donc là, en l'occurrence, il est sur une moto, lui aussi. Il a bien organisé son truc pour que ce soit très précis, encore là, une fois méthodique et tout. Mmh. Il sait très bien que à telle heure, il y a le feu rouge. Donc la voiture de la cible s'arrête au feu rouge. Lui, il y va juste avant que ça passe au feu vert. Il s'arrête devant, rafale de pistolet mitrailleur. Mmh. Il repart au moment où ça c'est à nouveau feu vert. Comme ça, il y a un peu le bordel et il peut s'échapper tranquillement. Donc première mission réalisée. Sans accro.
Alors par contre, quand tu penses un peu, tu sais, le gars est quand même super précis et tout, là, mais il avait aucune raison de savoir que la voiture, elle serait là, genre, à minuit pile, genre. Enfin...
Bon, on peut imaginer que, vu que si c'est un mafieux en face ou un tout le genre, que le mec, il a des habitudes très très précises, ce qui est plutôt à éviter, mais bon, ça me choque pas.
Ouais,
tu sais, dans Hitman, ils font toujours les mêmes parcours, à la même, même minutage et tout, hein.
Ouais, mais ça fait du sens parce qu'on n'est pas dans un film.
C'est vrai.
Mais voilà. Oui.
Non, mais ça m'a pas choqué. Je me suis dit, tiens, ouais, le mec est vraiment très très précis.
Ouais.
Mais bon, ça passe, quoi. Après, donc on va passer à la deuxième cible, qui est... c'est lui qui est un trafiquant de... Comment on dit qui s'occupe de trafic sexuel, il me semble.
C'est une personne qui est considérée vraiment comme une mauvaise personne. Ce qui Joe, lui, en a rien à foutre. Hein. Il tue ce qu'on lui demande de tuer, il s'en fout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que pendant que Kong emmène la deuxième mallette, il se fait agresser par des gars apparemment à qui il doit de l'argent ou je sais pas quoi, et la mallette s'ouvre. Et il réussit à s'enfuir et tout, mais malheureusement il a regardé dedans, quoi. Et donc il sait que Joe est un peu en train de tuer, qu'il c'est un assassin et il doit tuer cette personne.
Dit, cette personne que tu vas tuer, c'est une très mauvaise personne.
Voilà.
Donc là il y a Kong qui valide entre guillemets le fait de
assassiner cette personne.
Tuer cette personne. Et il demande en même temps à Joe de l'entraîner pour qu'il devienne comme lui. Ce à quoi Joe, il fait un peu genre, il s'énerve au début. Et en fait, il accepte très très rapidement. Et c'est là le premier truc où on se dit, mais en fait, il n'y a absolument rien dans le film qui explique le changement d'opinion, enfin le changement d'humeur de Joe qui, d'un coup, il décide qu'il allait devenir pote avec ce mec. Parce qu'il n'y a pas eu de scène entre les deux avant. Le seul truc, c'est qu'il est arrivé un peu amoché, et puis voilà, quoi.
Puis, mais... non, tout ce qu'il dit, c'est... j'ai regardé dans ses yeux, puis je me suis reconnu. Ok. C'est suffisant pour toi pour genre enlever tes genre 15-20 ans de règles super précises de jamais être de jamais t'attacher à personne. Ok, très bien.
Mais ouais, non, je trouve que c'est le problématique du film, c'est qu'en fait il essaie de nous dépeindre un personnage qui après des années seul va d'un coup changer un peu en voyant la fin de sa carrière arriver, je sais pas quoi, machin truc. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui est montré dans le film.
Ouais, non, c'est ça.
Dans le film, il n'y a rien qui prépare ce changement de... ça me fait pas penser à... C'est un peu le Grand Torino avant l'heure, quoi. Quoique, non, Grand Torino, c'est pas 2009 aussi ?
Oh, c'est pas impossible, ouais.
Mais il y a un peu ce truc-là aussi de, voilà, du personnage qui... Bah, c'est parce que c'est un film aussi, donc
c'est forcément, 2008, ça doit être... C'est Grand Torino.
Ah, d'accord, bah voilà. Mais le film d'origine, le premier Bangkok Dream Tour, je ne sais pas de...
99. De... Bref.
Voilà, donc...
Mais Bangkok Dangerous est aussi de 2008, donc... je pense que...
Il y avait un thème, c'était l'année.
Moi, j'ai envie de dire Clint Eastwood, il a pompé. Hein. Il est allé voir les frères Pang, il a fait « Ouh, ça a l'air d'être un bon film, ça. Je vais refaire la même. »
J'aime ce concept. Mais ouais, voilà, en fait, il n'y a rien qui est préparé dans le film. Alors, effectivement, c'est un film d'une heure 40, comme tu l'as dit. C'est pas forcément facile de préparer en douceur, de rentrer dans la psyché des personnages et tout, mais franchement, là, il y a vraiment zéro effort qui a été fait.
Je vais être honnête avec toi, ça aurait juste pris qu'on nous montre Joe déjà être au début, là, juste être en mode « Ah, peut-être que j'ai gâché ma vie à jamais avoir d'amis ou à jamais... » Et puis c'est tout, là.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Hop ça.
Il y a aucun. En fait, c'est limite si t'as pas lu le synopsis, tu le sais pas quoi.
Ouais, ouais.
C'est plus, t'as plus d'infos sur Wikipédia sur le synopsis que dans le film.
C'est un peu ce que tu disais aussi, parce que c'est vraiment la seule motivation qu'on a de lui là, c'est vraiment une ligne qui dit, c'est genre j'ai regardé dans ses yeux puis je me suis reconnu. Cligne des yeux, tu la rates, tu sais pas pourquoi il fait ça. Déjà que là c'est pas, pour moi c'est pas une.
Tu vois, pas moi j'avais pas entendu ça.
Ouais, bah voilà. Donc tu vois, mais pour moi ça justifie pas, pour moi c'est pas une bonne justification, je veux dire, mais ce que je veux dire c'est qu'au moins c'est là, mais c'est tellement léger que ouais, tu clignes des yeux, tu l'as raté quoi.
Non, puis du coup là tu t'en fous complètement de tous les personnages du film, hein.
en plus je veux dire
clairement
Kong il est pas super intéressant comme gars quoi, donc
bah non, tu sais rien de lui.
Ouais, c'est un voleur. Ok,
j'ai juste que le mec il a envie de devenir assassin, on sait pas pourquoi.
En plus
c'est pareil, ouais. C'est un... Le mec, il voit ça et il dit « Putain, trop cool enfin, !» Moi, je vois ça, je me dis « Bon, c'est sûr qu'il va vouloir me tuer à la fin, donc je vais juste me barrer. »
Ouais, bah ouais.
Et pendant que je peux encore survivre. Non, non, lui, il se dit « Bah, c'est cool, c'est l'occasion d'apprendre à tuer des gens. » Et bah, nice. Bref, donc il va quand même... il va faire le meurtre. Hein. Donc c'est celui-là qui tue dans la piscine.
Oui, ouais, c'est celui-là qui tue dans la piscine. Que t'es quand même bizarre. Mais alors,
ouais, bon.
On en parlera plus tard.
Une scène où, alors, on imagine que Nicolas Cage s'est entraîné à prendre sa respiration pendant
longtemps
sous l'eau et tenir sous l'eau pendant 10 minutes, parce qu'en fait, la façon qu'il a de le tuer, c'est qu'il essaie de le noyer, mais il le noie en lui-même étant sous l'eau, en fait.
Ouais.
Donc en fait, voilà, il faut juste que lui tienne plus longtemps que l'autre mec.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est con, hein, si jamais.
Faut s'être bien renseigné, quoi. Si le mec est champion d'apnée,
t'es dans la
merde. C'est juste toi qui meurs, en fait. Il lui lance un défi, quoi.
Bah ouais, non, c'est toi contre l'homme, là. C'est vraiment genre... Tu te mets en danger pour de l'adrénaline, tu vois.
Pour la beauté du sport.
Ouais, voilà.
Donc le mec est très méthodique et tout. On a l'impression que là celle-là... Ça pouvait vite partir en cacahuète.
En plus, je veux pas être méchant, mais est-ce qu'il nous montre que genre il y a une femme sur le bord de la piscine qui est en train de, tu sais, de regarder.
Prétend.
Mais tu sais, genre, enfin, je sais pas, t'as une personne qui est en train de se noyer derrière toi, tu l'entends? Enfin, ça fait du bruit là, non, quand quelqu'un bouge dans l'eau là.
À Bangkok, tout le monde est sourd et muet. C'est un petit teasing pour
pour plus tard.
Pour plus tard, mais qui va être maintenant en fait. Je sais plus à quel moment ça se place exactement. directement.
Non, non, ah, non même c'est pas. C'est avant, c'est parce qu'il se graffine sur la moto. Ouais, on a... ouais, voilà, tu vois, on est complètement
en fait,
perdu.
Au moment où il fait son premier meurtre, il va se cogner sur. Bon, il y a un gamin qui portait des barres en métal, on va dire. Et...
Pourquoi pas?
Oui, bah, c'est une chose normale, la Bangkok, écoute. Tous les gamins font ça. C'est.
Ah, peut-être.
On a pas la même culture, ne jugeons
ouais,
pas.
Ouais, c'est vrai, on se moque, mais ça se trouve, c'est le cas. Donc, mais voilà, ouais, t'as raison.
Non, mais je me rappelle même plus exactement ce qu'il a dans les bras. En vrai.
Ouais, c'est des...
Mais tout ce qui est, c'est qu'il a une écorchure sur le bras et il va aller dans une pharmacie pour trouver quelque chose pour se soigner, quoi.
Ouais.
Parce qu'a priori, il travaille pas de trucs avec lui. Il a pas prévu de se faire mal.
C'est vrai que c'est con, putain. J'avais vraiment pas pensé à ça. C'est vrai que je sais pas, moi je suis un professionnel, je me balade avec mes bandages, quoi.
Oui, au moins un peu, parce que là, franchement, c'est vraiment une égratignure. Hein.
Puis en plus, ouais, non.
Il peut juste aller acheter de la pommade. Hein.
Ton objectif, c'est de t'assurer que, genre, si jamais t'as une blessure, que personne peut te retracer à cause de cette blessure-là.
Bah oui. Donc,
oh, putain, c'est con, man. Ah, j'avais pas pensé, mais c'est con. Ouais, ok.
Bon, après,
ouais.
Je crois qu'il paye en cash, donc ça va. Mais...
Ouais, mais quand même, quoi.
Et l'idée, c'est, voilà, il tombe sur une vendeuse qui va s'avérer être sourde et muette. Et il va tomber amoureux, on peut dire.
Comme ça.
Comme ça, il la trouve jolie, quoi.
Ouais, non, mais après, une fois de plus, après avoir passé 15 ans de sa vie, parce que, alors, la chose qui me fait le plus rire dans tout ce film, hein, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais parce que dès le départ, il t'explique que, dès que tu sens que tu commences à perdre ton edge, faut que tu sortes. Mais là-dedans, Nicolas Cage, on dirait qu'il a 50 ans, quoi. Son edge, il a dû le perdre il y a au moins 20 ans, quoi. Mais c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave.
Il a 50 ans, mais il a 5 ans d'âge mental aussi, parce que. Il est en plein milieu de sa mission et du coup il va tout lâcher pour enfin il va prendre des risques considérés entre guillemets en commençant une relation avec cette femme.
Mais on dirait il a jamais vu de femme de sa vie en fait, c'est parce que genre c'est ça fait 15 ans que son objectif c'est genre ne ait jamais de relation en dehors du travail quoi.
Ouais, il en a jamais croisé. Il a jamais besoin d'aller dans une pharmacie.
Il a peut-être un truc pour les pharmaciennes, je sais pas là, mais c'est quand même.
Il y a un autre truc qui me entre guillemets me pose un souci. Je sais pas à quel point je m'imagine le truc, mais il y a un peu le côté du mec qui va être attiré par une femme entre guillemets faible. Mmh. C'est pas le bon terme, mais c'est un peu l'idée du chevalier blanc. Qui va être attiré par quelqu'un qui est en position de handicap. Je trouve qu'il y a un peu ça, le côté elle est fragile, enfin voilà, et qui va vouloir la sauver. Ça fait un peu, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu en parallèle de ce qu'il peut y avoir dans certains autres films où ça va être avec une prostituée ou quelque chose comme ça.
Il y a un peu de ça.
Et ça me dérange, je suis pas très fan. Ça me dérange un peu parce que elle s'en sort très bien. Hein, elle est pharmacienne. Elle a l'air d'avoir une vie très bien.
Elle
a pas besoin qu'on la sauve, quoi.
Il y a aussi le fait un peu étrange, c'est que tu sais, on sait que Bangkok en général, c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'hommes en général blancs qui vont là-bas pour genre coucher avec des prostituées. Puis d'ailleurs, justement, on le montre dans le film sexuel, au début. Ouais. Tu sais, donc du coup, t'es genre... c'est vrai que c'est un peu touchy. Alors après, personnellement, je sais pourquoi ils ont voulu faire ça, les frères Pang. C'est parce que dans le film original, c'est Joe, le personnage principal, qui est sourd et muet. Mm. Mais comme Nicolas Cage, lui, voulait des lignes, ils ont décidé de faire ce personnage sourd et muet un autre personnage... Et ils avaient besoin qu'il y ait une interaction entre les deux. Mais c'est tellement amené nulle part. Tu sais, pour un gars qui est censé être aussi, genre, asocial, puis aussi machin, juste tout ce qu'il fait, c'est qu'il voit une souris muette, il lui sourit, puis il est content, quoi. C'est, soudainement, parce il est amoureux,
fait,
quoi.
Là où il y a une surinterprétation, c'est ce que je disais, que j'étais pas sûr non plus du truc, c'est qu'on sent que... elle lui plaît avant même qu'il commence à lui parler parce qu'au début il pense que enfin il sait pas voilà il est pas fort. Je crois qu'on sent qu'il lui sourit qu'il est attiré par elle avant même d'avoir l'information sur son handicap.
Oui.
Mais je sais pas, je trouve qu'on retombe un peu dans un trope qui est existant dans le cinéma et qui me dérange un peu. Je sais pas quelles étaient les intentions derrière, mais il se raccroche un peu à quelque chose qui m'a un peu gêné.
Mais en gros, ça continue cette espèce de... Ça continue ce problème qu'a ce film de ne jamais vraiment nous présenter les véritables motivations de leur personnage et de juste dire bon bah voilà maintenant t'es dans cette relation là, en fait. Maintenant t'es dans cette situation. Démerde-toi.
Parce que elle, on sait pas qui c'est, on saura jamais rien d'elle.
En plus ouais non c'est.
Elle est pharmacienne, ils veulent l'inviter à manger, dire oui. Et puis voilà quoi.
Puis tu sais enfin je suis désolé mais c'est enfin je fais c'est Charlie Young quoi. Que c'est l'actrice qui joue ce personnage, c'est Charlie Young, puis enfin c'est pas n'importe qui quoi. Elle a joué dans des films de Wong Kar-wai, elle a joué dans tu sais et ce personnage là, elle littéralement rien quoi. Bah déjà elle a pas de ligne parce qu'elle est sourde et muette. Puis on la voit quoi 3 scènes, 4 scènes. Puis tout ce qu'elle fait c'est sourire. Enfin, c'est un peu déprimant quoi. C'est un peu dommage.
Mais après elle le fait bien, mais bon.
Ouais, pas bon.
Non, c'est pas passionnant non plus quoi. Et c'est vrai que du coup la relation manque énormément de profondeur. Donc voilà, on reprend un peu le chemin. Donc on a eu nos deux premiers meurtres. Et sur le troisième, je ne me rappelle plus exactement.
C'est celui qui est sur un bateau là. Mais c'est ah oui, c'est, pardon, c'est le oh mon Dieu, mais ça, alors ça par contre ça c'est le meurtre le plus con que j'ai vu de ma vie.
Ouais.
Alors ils partent apparemment le gars il est à 1h30 de Bangkok donc ils doivent y aller, c'est dans une espèce de
ces marchés flottants.
Voilà, de marchés flottants, donc ils sont sur une espèce de pagaie et il y a plein de gens autour qui sont en train de prendre des photos blablabla bla, bla, et lui il est juste là avec son pistolet silencieux. Sous des fleurs et il attend que le gars y passe pour essayer de lui mettre une balle dans la tête. Puis je suis juste genre bon, alors déjà d'une ça marche pas hein, et l'autre finit par le repérer à cause de quiproquo et autres bilvesés, mais déjà de base le plan est super con quoi, parce qu'il y a quand même genre un truc comme genre 30 personnes autour.
Ces plans sont vraiment de pire en pire.
Puis, en plus, sur le bateau du Gap, ce gars-là est avec deux femmes, bon, probablement des escortes qui sont là avec lui pour l'amuser. Puis t'es genre, c'était quoi ton plan? Tu vas lui tirer dessus, puis les deux femmes à côté, elles vont se mettre à hurler. Et puis c'est pas très difficile de calculer d'où la balle elle vient. Hein. T'es juste en face de lui. Littéralement, t'es genre il était quoi, peut-être 3 mètres, 4 mètres de lui quand il allait tirer, genre. C'est. Enfin, puis moi, il y a plein de gens autour qui prennent des photos, donc t'es genre, ok, tu vas clairement être sur une photo, on va te voir avec son. C'est complètement con.
La raison pour laquelle il annule, entre guillemets, le meurtre, donc il change d'avis et il décide de pas tuer le mec tout de suite, bah en fait.
C'est parce qu'il est repéré.
Ouais, mais s'il avait pas été repéré, ça aurait fini pareil.
Oui.
Une fois qu'il soit repéré ou pas, ça change quoi? Il peut quand même. De toute façon, il l'aurait quand même tué au milieu de tout le monde. Et...
Parce qu'on s'entend que c'est ce qu'il a fait avec le premier meurtre. Il a tué les gars avec tout le monde. Mais il était genre habillé en truc de cuir avec un casque de moto, quoi. Là, il a rien. On voit son visage. C'est con. C'est super con. Puis j'ai pas compris. Parce que jusque-là, bon, tu sais, on s'entend, je suis d'accord avec toi. Le coup de la piscine, c'était un peu. Un peu branlant, mais c'était quand même classe, ça avait un peu de sens, quoi. Puis c'était joli comme l'idée d'aller noyer un gars parce que tu veux que ce soit un accident. Mais celui-là, il est complètement stupide, comme.
Ouais.
Puis voilà, après, on a le droit à une course-poursuite en bateau qui est moyenne, parce qu'elle est mal éditée.
Ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment le truc où tu te dis, ils ont fait ça pour pouvoir avoir une scène impressionnante qui est une scène de course-poursuite.
Ouais.
Mais en fait, ça valait pas le coup parce que la scène est pas cool, quoi.
Elle est pas cool parce qu'elle est mal filmée. Le plan, l'idée,
ouais, puis y a pas...
mais l'exécution est dégueulasse. L'idée, elle est cool, quoi. Enfin, une petite course-poursuite en boat sur ce genre de truc. À la fin, il coupe la main du gars avec le moteur. Enfin, c'est... Ouais, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, mais c'est pas grave.
Non mais voilà, il y a une course poursuite, il sert du moteur d'un bateau pour lui couper la main parce qu'il avait un flingue dans la main, quoi.
C'est quand même cool, quoi. Mais le comment c'est montré, c'est
ouais, mal, mais c'est au milieu, quoi. c'est dans la course poursuite en elle-même que je trouve que ça manque un peu d'idées de réalisation, des idées qui visuelles qui permettent d'être dynamique, c'est d'avoir des petits moments un peu waouh au milieu.
C'est édité à la pisse. Honnêtement, tu coupes d'une caméra à une autre, tu sais pas où t'es, spatialement t'es perdu. Et puis ouais, ça manque de punch quoi. Enfin
ouais, c'est un mélange de mal édité et même si c'était bien édité, les plans sélectionnés, les l'action qui se passe, c'est pas assez original pour de quoi qu'il arrive en faire une scène incroyable.
Non, mais ça aurait pu être solide. Puis là, ça l'est pas.
Oui.
Et c'est vraiment naze quoi. Enfin bref.
Parce qu'il y a un mélange de course-poursuite un peu réaliste. Et puis de finale où il lui tranche la main, qui est un peu plus dans le côté action rigolo. Donc le niveau du ton, je sais pas, c'est, il est un peu, il sait pas trop où se mettre.
Ouais. Après, je sais plus. Est-ce que c'était avant ou après ? Tu vois, c'est vraiment un problème avec ce film là. C'est vraiment.
Je crois que c'est un peu avant. Je crois que c'est un peu avant. Si on parle du. Bah, ouais, c'est avant.
En gros, pendant une date avec. La pharmaciste, Joe se fait attaquer par des pickpockets, et comme c'est un gros barbare, mais vraiment un gros barbare, tout ce qu'il fait c'est genre, parce qu'il se fait braquer avec une arme à feu, il récupère l'arme à feu et il plante les deux gars là directement, exécution style, au milieu de la rue. Pap, pap, deux bastos par personne. Puis Fawn se retourne parce qu'elle a un peu du sang qui lui a coulé sur l'épaule et elle se rend compte que le mec est juste un assassin. Et surtout, et le gars, il se fait pas arrêter. Et la police est jamais appelée. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est genre, ah non, bah, je m'en vais, je veux plus jamais te revoir. Très bien, je comprends. Pourquoi t'as pas appelé la police ? Pourquoi ?
C'est une catastrophe.
Et deux gars sont morts. Deux balles dans le dos.
Cette scène, de toute façon, elle sert juste à un truc. C'est que le mec, il y a un des frères là qui s'est réveillé un matin qui a dit putain, trop cool. Vu qu'elle est sourde, on va montrer une scène où, genre, dans son dos, il est juste à côté d'elle et il tire et elle va pas en entendre parce qu'elle est sourde et du coup, elle va pas. Et ça fera une scène cool. Alors, ouais, d'accord, mais s'il y a rien qui marche.
C'est encore super mal édité. C'est au ralenti là, ils ont fait péter le slow motion, mais dégueulasse.
Ouais, puis voilà, elle réagit comme si elle venait de découvrir que en fait quand il était jeune, il avait un skyblog quoi. c'est juste là. Elle est un peu énervée quoi.
Merde, j'avais un skyblog quand j'étais jeune.
Oui, on a tous eu ça. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'elle l'appelle pas, qu'elle appelle pas la police, ce qu'a priori elle trouve.
Bah, il y a ça et le fait qu'elle est muette aussi, donc elle peut pas tellement appeler la police, mais ça c'est.
Ouais.
On va peut-être le couper, ça.
Tu m'as compris.
Non, mais non, bon. C'est mauvais ce que je veux faire.
Je pense que c'était vraiment l'idée, c'était de faire une scène qu'il trouvait cool.
Oui, mais enfin, je veux dire, le truc c'est qu'il y avait de l'idée, mais dans l'idée, fait en sorte qu'il se fasse attaquer par autre chose que juste deux thugs. Enfin, c'est con. Enfin, cette idée, elle est pareil. En fait, c'est un gros problème avec le film. Ils ont des bonnes idées, règles. Mais ils ont des gros problèmes d'exécution et de scénario autour de ces idées-là. C'est problématique, quoi. Mais bon.
Bah, si tu veux avoir des scènes cool visuellement, un peu con. Bah, tu faut aller à fond là-dedans.
Ouais.
Là, parce que selon ses règles, il va jamais tuer des gens en pleine rue.
Il va jamais faire ça.
Il va se faire choper, quoi. Enfin, c'est une très mauvaise idée.
Mais bon, après, depuis le début, bon. Il fait que juste pas les suivre, ses règles, donc.
Oui, non, mais voilà. Mais c'est, du coup, le film, il est bête là-dedans. Et dans ce cas-là, bah, franchement, vas-y à fond. Hein.
Oui.
Il aurait pu buter la pharmacienne juste après et puis il se met à tuer tout le monde.
C'est juste ça. Merde, j'ai des témoins maintenant.
Et ça s'arrête jamais.
C'est vrai, il y a une personne qui arrive, il faut qu'il le bute. T'as une autre personne qui rentre. Merde. Et c'est ça, ouais, si ça avait été juste ça à la fin du film, j'aurais été content. Juste Nick Cage qui tue tout le monde à Bangkok. Oui. Mais bon.
Et donc là, on arrive enfin à la quatrième cible.
Ouais.
Donc le dernier assassinat qu'il doit réaliser à Bangkok, et ça va être une personne qu'on nous a présentée de manière très très subtile quelques minutes auparavant. Voilà, là, on s'attendait pas du tout à que ce soit la dernière cible. On a donc Kong qui dit à Joe, ah, ça c'est toi, t'es un mec bien, t'es un peu, tu tues les méchants et tu donnes de l'argent aux pauvres. Je sais pas pourquoi il dit ça, alors qu'il ne fait pas ça du tout. Parce qu'il se fait payer et voilà. Ah si, bah, s'il se considère lui comme un des pauvres à qui il a donné de l'argent, peut-être, mais bon.
Ouais.
Et bah, tu sais qui d'autre fait ça ? Et bah, le premier ministre de la Thaïlande. C'est lui aussi, c'est un mec super bien. Alors, saurez-vous deviner qui est la quatrième cible ?
Mais surtout, c'est quand même couillu, hein, t'es genre, toi t'es...
ouais, c'est pas n'importe qui.
T'es surate, là, le gars qui lui donne ses missions, là, qui est aussi un autre... crime boss, le gars t'es genre viens, vas-y, va tuer le premier ministre de la Thaïlande. Ok mec, t'as des couilles mon gars.
Ouais non mais c'est un peu too much. Et du coup bah voilà, forcément on a alors le mec il a cassé toutes ses règles depuis le début, mais là maintenant c'est vraiment le moment introspectif où il s'y décide. Est-ce que il doit tuer cette personne qui sait qu'elle est gentille, voilà.
C'est ça, c'est, en vrai, quand tu regardes le film, littéralement, ce qui se passe, c'est que je pense qu'à chaque mission, il brise une de ses règles. C'est le truc, finalement.
Mm.
C'est, mission 1, il brise la règle de ne pas faire de relation avec les gens. Mission 2, il laisse des traces parce qu'il s'attache avec Kong, donc il sait qu'il ne va pas le tuer. Mission 3, il est juste con. Ma mission 3, c'est celle où il faut pas laisser de. Faut tout bien planifier, apparemment. Ça, c'est la règle qui fait genre, allez, j'en ai rien à foutre. Puis mission 4, c'est vraiment, ouais, voilà. Bon, bah, il n'y a pas de bien et de mal, mais en fait, si, il y a des gens qui sont bien. Parce qu'apparemment, le premier ministre de la Thaïlande est une bonne personne. Ouais, apparemment. On n'en sait rien.
En tout cas, c'est ce que semble penser le scénariste ou les réalisateurs.
Ouais. Et du coup, bah, Joe, après qu'on ait le droit d'ailleurs à... après qu'il nous montre que, comment il l'aurait tué, parce que bruit, on est quand même là pour voir des meurtres, hein, apparemment, hein, il décide de pas le tuer.
Il part sur le plan de le tuer et au final, voilà, il change d'avis. Ça tombe à l'eau. Et en parallèle, on a justement le gang là, qu'il avait déjà attaqué. Qui cette fois a kidnappé la danseuse qui leur servait à filer les mallettes et Kong. Donc Joe il se retrouve face à un choix. C'est où il se casse, il laisse tout le monde derrière lui et puis il se casse tranquille du pays, ou il décide d'aller sauver Kong. Évidemment, maintenant, vu que c'est un gentil, il décide d'y aller.
On est d'accord que le okay, parce que Surat, la raison pour laquelle il veut commencer à se débarrasser de Joe et de Kong et tout ça, c'est parce qu'il est genre, ah mon Dieu, une fois qu'il va avoir tué le Premier ministre, ça va revenir jusqu'à nous. Mais on est d'accord que c'est vraiment con, vu que Joe, il tue pas le Premier ministre. Enfin, il n'y a aucune raison que ça lui revienne jusqu'à lui. Enfin, c'est con.
Ouais.
Parce que Joe, c'est toujours... Ah si, à un moment, c'est vrai. À un moment, Joe sait que Surat... Ouais, c'est vrai, il lui a dit... Là, on a oublié cette scène-là où Surat envoie des gars après Kong et Joe est en mode, si jamais je revois tes gars, je tue ta femme. Ouais, on avait oublié ça. Ouais. Non, donc du coup, c'est pas si con que ça. Ok, très bien.
Non, mais en gros, voilà, il s'est plus... ils ont kidnappé Kong et la danseuse pour... pour s'en servir.
Pour attirer Joe, pour le tuer. Ouais.
On imagine, enfin moi ce que j'avais compris, c'est que c'est plus... Ils partaient du principe qu'il allait tuer le Premier ministre et qu'après, ils allaient s'en servir pour effacer ses traces en le tuant. Mais il se trouve que vu qu'il n'a pas tué le Premier ministre, bon, ils auraient peut-être dû changer de plan, ou je sais pas. Mais en tout cas, vu qu'il apprend qu'ils sont kidnappés, bon, bah, c'est un peu trop tard, quoi. Et donc il y va. Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle plus comment il arrive à les sauver.
Bon, il tue tout le monde, quoi. Il tire de partout, il balance des grenades.
C'est une scène un peu.
Mais c'était mal filmé une fois de plus pour
pas changer. Un peu cracra, hein. Ouais.
Et après, il reste. En fait, il arrive à rattraper Surat avant qu'il s'enfuit dans sa voiture. Après une petite scène d'action qui, pareil, est pas géniale, il rentre dedans et il se rend compte qu'il a plus qu'une seule balle. Et qu'il est complètement cerné par la police. Et là, on arrive à la fin principale, donc la fin théâtrical, quoi, qui est sorti au cinéma, où en fait, il décide, bah, il recule avec la voiture pour être proche de la police, il met son gun sur sa tempe, et il colle la tête de Surat à la sienne pour bah, tuer deux personnes avec une seule balle, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas s'en sortir, en gros. Et,
il ne veut pas aller en prison. Ouais.
Donc il se suicide en même temps qu'il tue Surat. Et en gros, le film se termine sur cette espèce de shot extrêmement bizarre de Kong qui regarde dans le vide. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est super étrange. Et c'était la fin théâtricale de Bangkok Dangerous. Mais pour une fois n'est pas coutume, on va vous parler de la fin alternative parce que Julien et moi, on a tous les deux le DVD. D'ailleurs, je voulais te poser cette question. As-tu regardé le DVD, toi ?
Non, mais comme j'avais expliqué, je prendrai peut-être le temps de le faire, mais j'ai malheureusement plus de lecteurs. J'ai plus aucun lecteur chez moi. Donc, il faut que je pense à la limite à l'amener au boulot pour, et après ripper le DVD pour pouvoir le regarder. Ouais. Enfin, donc, c'est un peu con parce que, en fait, le fait de l'avoir légalement, c'est plus compliqué pour moi de le regarder si, que si je trouve un moyen illégal de le télécharger avec les bonus et tout. Donc,
J'ai commencé à le regarder avec un DVD, puis je me suis rappelé qu'en fait, un DVD, c'est laid.
Parce que pendant, plus, il y a ce souci-là qui peut arriver. Oui.
C'est aussi parce que le film a vraiment beaucoup de grains. C'est leur choix, apparemment.
Oui. C'est vrai que je voulais en parler, j'ai oublié d'en parler. Il essaye, il y a ce côté un peu gritty, voilà, il essaie de se donner ce style-là. Enfin, bon, après, je pense que c'est leur patte. Voilà. C'est un truc qu'on retrouve régulièrement, notamment dans le cinéma justement asiatique. Hein.
Mais
ça peut apporter quelque chose, là, en l'occurrence. Bon,
mais du coup, il y avait vraiment tellement de grains que j'étais genre, est-ce que c'est juste le DVD qui est de mauvaise qualité ou pas ? Donc du coup, je l'ai regardé en HD. Par contre, la fin alternative que moi, je suis convaincu que c'est juste la fin du film, en fait, elle est, je l'ai regardé sur le DVD avec le grain dégueulasse et en 480p, comme toute bonne personne. Et donc, cette fin alternative, je vais te laisser la décrire, Julien.
Ouais, bon, c'est un peu la bonne fin, entre guillemets, on va dire. C'est là la fin où les choses se passent bien.
Oui.
Au lieu de se suicider, on a Kong qui va voler une voiture de police et, à l'inverse de ce qui s'était passé précédemment, cette fois-ci, c'est lui qui va aller sauver Joe.
Exact.
Il tue Surat dans l'action. Et ensuite, il s'enfuit. Ils vont se cacher.
Ils vont se cacher dans la manière la plus bizarre au monde. Là, ils arrivent dans une ruelle où il y a plein de gens. Et t'as Kong qui dit à tous ces gens-là que genre c'est le mec qui a tué Surat. Alors déjà pourquoi tu dis ça à quelqu'un genre parce que il pourrait très bien avoir quelqu'un dans la foule qui est genre associé à Surat ou je sais pas quoi. Et t'as un mec, t'as un mec qui se rapproche et qui fait genre Surat c'était un homme très méchant. Oui. Donc ce que t'as fait c'était bien. Allez viens on va te soigner. Et puis t'es genre oh mon Dieu. Oh là 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 là.
C'était un risque effectivement. Non, c'est ça, ouais. Il prend ce risque-là, donc au fait, donc il y a cet homme-là qui va les aider, puis après, tout simplement, ils vont organiser le départ de Joe
avec un bateau. Donc,
voilà, ils vont l'amener à quelqu'un qui va lui faire traverser la frontière et puis qui va rentrer chez lui, tout simplement.
Puis Joe donne en gros un compte en banque avec de l'argent dessus à Kong pour que parce qu'il était un bon étudiant, et Joe s'enfuit, et là on a donc le film se termine sur exactement la même image que la fin normale, sauf que là elle fait du sens parce que du coup Kong est en train de regarder Joe s'enfuir en bateau alors qu'elle fait aucun sens. Et en fait c'est ça mon problème avec cette fin théâtricale, parce que ils appellent cette fin là une fin alternative, puis moi j'aime pas ce terme parce que pour moi une fin alternative c'est une fin qui a été filmée spécifiquement pour ce point-là, pour changer le point. Mais non, très clairement, ils ont filmé cette fin-là. Le studio n'a pas aimé ça. Donc, du coup, ils ont coupé au milieu pour faire la fin théâtricale.
C'est pas exactement ça. Parce que, en fait, les deux. si ça c'est la vraie fin, c'est la, nous ce qu'on a vu c'est la, de base c'est ça la fin alternative, mais c'est pas comme si c'était juste recoupé.
C'est complètement recoupé.
Non, mais ce que je veux dire c'est que les scènes où il se suicide, ils l'ont tourné en plus pour faire une fin.
Non, ils l'ont pas tourné parce que c'est comme ça que ça marche. Dans la fin alternative, il met bien son gun à sa tête parce que pour lui il est prêt à se suicider. Mais par contre, il y a Kong qui arrive. C'est juste que.
Ouais, mais il y a pas des scènes en plus.
Non, il y a zéro scène en plus. C'est exactement les mêmes scènes.
C'est vrai qu'il y avait des scènes en plus.
Ils ont rien retourné de plus. Ils ont juste coupé dedans pour donner l'impression que Joe s'est suicidé. Et c'est pour ça que ça se termine sur ce pan out de Kong vraiment dumb, au lieu que ça se termine sur autre chose. Ça, ils auraient pu refilmer autre chose. Ils l'ont pas fait.
C'est ouais, d'accord. Mais je pensais qu'il me semblait qu'il y avait des scènes en plus, parce que justement, ça m'a semblé clair qu'il se suicidait alors que. Ouais. Mais par contre, moi, la remarque que je me suis faite tout de suite, c'est l'inverse de d'habitude. D'habitude, c'est plutôt la fin gentille qui serait la fin au cinéma, et l'autre qui serait la fin alternative. Là, c'est l'inverse, quoi. La fin qu'ils ont choisi d'utiliser, et qui est a priori pas la fin prévue de base, bah c'est la fin la plus triste et la plus sombre.
Ouais, mais c'est la fin qui thématiquement fait le plus de sens, dans le sens où après avoir déconstruit son personnage tout le long du film, eh ben, il se rend compte que la seule manière pour lui de continuer à survivre, c'est de se suicider. Ce qui est con, hein. Mais parce que.
Je suis pas convaincu. Hein. Mais, je trouve qu'il y a aucune des deux fins qui fait sens.
Non. Ah, mais le film fait aucun sens.
Il y a rien qui indique qu'il est suicidaire ou je sais pas quoi.
Non, mais.
Qu'il arrive à cette limite-là, ça paraît extrême, même par rapport à ce qu'ils t'ont montré avant. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est que de toute façon, il n'y a pas assez de choses qui te sont montrées pour que tu comprennes l'évolution du personnage. Donc en fait, il fait que des trucs qui paraissent totalement bizarres et venus de nulle part. Mais je sais pas, je la trouve pas plus logique dans l'arc scénaristique du personnage que l'autre. Les deux, il y en a aucune des deux qui marche, quoi.
Je la trouve plus logique dans un sens où c'est une finalité. Tu sais,
À la rigueur, sur une échelle de 1 à 10, la fin de base, elle est à 2 et l'autre, elle est à 1. Quoi.
Mais c'est vraiment. Ok. Enfin, je pense que si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes très, très au courant que c'est pas un bon film. Quoi. Et c'est bizarre parce que c'est un film que. Tu sais, moi, j'avais envie. J'y suis allé avec toute la bienveillance du monde parce que les frères Pang surtout leur original c'est pas le plus grand film de tous les temps mais c'est pas un mauvais film quoi, il est solide et puis je m'attendais à avoir un film solide au final, tu sais, de me dire bon bah tout le monde l'a pas aimé mais c'est parce que c'est peut-être pas la sensibilité des Américains, tu sais, je veux dire c'est un film thaïlandais au final, donc tu sais nous toi et moi en général on aime bien le cinéma asiatique, donc je me suis dit, comme on a un peu cette sensibilité-là, peut-être que ça va passer. Mais en fait, non. Non. Toutes les critiques que j'ai lues sur Internet, elles sont tout à fait acceptables, en fait.
Ça m'a fait demander, en fait, si on revoyait l'original, peut-être qu'on le trouverait
moins bon,
aussi mauvais.
C'est possible.
C'est plutôt ça. Parce que mes souvenirs n'étaient pas très net, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit pas si loin de l'original. J'imagine qu'il a plus de défauts de ce que j'ai en souvenir assez lointain, mais ça m'étonnerait pas que en revoyant l'original je me dise ouais en fait c'est pas ouf non plus.
Puis enfin c'est quand même triste parce que on a beaucoup parlé du screenplay du scénario qui lui a pas été par contre écrit il a été écrit par les frères Pang, mais le screenplay par contre a été écrit par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est aussi un truc qui est perdu en translation, mais par contre la réalisation, on en parle un petit peu. On a beaucoup parlé de l'edit, du fait que l'edit est vraiment c'est un mauvais edit là, pour être honnête. Mais la réalisation, elle est molle aussi. Enfin les scènes de combat, enfin oh là là, une scène en particulier, moi, me saute à la tête, c'est quand Kong se fait attaquer par des thugs et que la balade s'ouvre et qu'il commence à... Tu sais, il s'enfuit. Là. Ah, j'ai jamais vu une scène d'action filmée de cette manière être aussi molle, quoi. Parce qu'elle est filmée, elle est... t'as l'impression qu'elle est bien filmée, t'as l'impression qu'elle est active et tout, mais en fait, tu regardes le truc, t'es genre, mais attends, je comprends pas, enfin, ces mouvements de caméra, ils sont propres, ils sont bien foutus, mais c'est, la colle, elle prend pas, quoi. Puis, est-ce que c'est juste l'editing? Est-ce que c'est un mélange de edit et réalisation? Est-ce que c'est la réalisation? Enfin, le problème, c'est ça, c'est que comme il y a des... tu sais, si par exemple le scénario était bateau, nul, mais la réalisation et l'édit étaient solides, ça aurait fait un film solide. Si juste la réalisation était un peu bancale, mais l'édit et l'histoire étaient solides, ça aurait fait un film solide. Tu sais, genre, un des trois, enfin, si deux des trois auraient fonctionné, ça aurait sauvé le film. Mais là, les trois sont bancales. et ça marche pas, quoi. C'est triste. C'est un film triste à regarder.
Et ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est le genre de film où tu peux accepter que le scénario ne tienne pas trop la route si tu t'amuses. Mm-hmm. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ouais. Bah, voilà, quoi. C'est zéro sur toute la ligne au final.
C'est dommageable. Et
arriver à s'ennuyer sur un genre de film.
Oh, c'est chiant. Puis. En plus, bon, ça va me permettre de faire un petit segue sur notre Nicolas Cage pas national. Je sais pas. Ce qu'il faut savoir, ça c'est super important, il faut savoir que donc Saturn Film, qui est la société de production qui a été créée par un gars, j'ai oublié son nom, mais qui est en fait ce qu'on a dans les faits la société de production de Nicolas Cage. Alors je sais pas, je pense qu'il est juste producteur dedans, mais en gros c'est sa société.
Pas, elle est présentée comme ça en tout cas.
Voilà. Mais je sais que c'est pas lui le fondateur par exemple, mais c'est sa société de production, quoi. C'est sa société de production qui a décidé d'acheter les droits et qui a décidé de produire ce film. Ce qui veut dire que ce mec a littéralement. Mais il était là pour dire aux gens non, on fait pas ça, ou alors on fait ça, oui, non, oui, non. C'est probablement lui qui est arrivé à la fin en mode on va prendre l'édit ou je meurs. Tu vois, c'est genre. Ça veut dire que. Enfin, moi, je juge Nicolas Cage toujours plus durement quand il fait partie de la société de production qui a produit le film. Parce que ça veut dire qu'il fait aussi partie. Parce que tu sais, genre, des fois, on est genre, est-ce que c'est le directeur qui lui a demandé de jouer cette manière ou pas? Ben, quand il a le terme de producteur, en général, il peut dire des trucs. Il peut dire, genre, je vais pas faire ça, ou ok, on va le faire comme tu veux le faire. Et là, c'est du gâchis de Nicolas Cage, quoi. Ça, déjà, d'une, parce que je suis désolé, je suis incapable de le prendre au sérieux, parce qu'il a 50 ans dans ce film. Il a l'air tellement vieux à cause de son problème capillaire qui est quand même très apparent. Alors que c'est censé être un jeune contractiller, quoi. Un gars qui a peut-être 35 ans maximum, quoi. Ça, on nous le dit jamais. On nous le dit jamais dans le film. Mais ça se comprend assez rapidement qu'il n'est pas censé être vieux, le gars. Surtout quand il rencontre Fun, quoi. Parce que Fun, qui est une Asiatique absolument magnifique, qui ne vieillit pas. Parce que je crois que c'est pareil, elle a à peu près le même âge que Nicolas Cage, il me semble. Mais elle, on dirait qu'elle a 30 ans, quoi. Donc du coup, t'as vraiment une dissonance énorme entre les deux. Et c'est un gâchis de Nicolas Cage, quoi. Parce qu'il est juste... Il joue un assassin qui est censé être super carré, solide. Et le seul moment où on le voit changer, c'est quand il sourit, quoi. Puis ça fait mal quand il sourit.
Bah, en plus... Justement, c'est là où tu le vois sourire, c'est cette scène où il tombe sur la première fois sur Fon, et c'est tellement exagéré dans ses expressions.
T'as l'impression que son visage il est cassé.
En fait, là d'un coup, tu te retrouves dans une comédie pas très subtile, quoi.
Ouais.
Où il est amoureux, alors du coup, il sourit bêtement, l'air béat, et il reste comme ça à la fixer sans partir, sans sortir. Là t'as l'impression d'être dans une comédie américaine bateau où tu dis waouh, mais qu'est-ce qu'on fait.
J'ai fait un truc et c'est con, hein, parce que c'est pas des expressions auxquelles on n'est pas habitué de lui quand il sourit. Je suis retourné voir C'est l'or et Lula, juste pour le fan. Et dans Sailor Illula, tu le vois, il sourit un peu de la même manière. Bon, un peu moins parce qu'il a le côté Elvis truc là. Mais tu sais, genre, c'est comme ça qu'il montre qu'il est.
C'est naturel.
Hein ?
Ouais, de manière naturelle.
Oui, voilà, c'est comme ça qu'il montre.
Alors que là, c'est pas du tout naturel.
Mais en fait, je pense que là, le problème, c'est parce qu'il passe tout le film à être une personne qui a zéro émotion. Et soudainement, il en a trop. Et en fait, c'est cette dissonance entre les deux. S'il avait juste été, il commence à sourire en coin d'un côté, subtil,
ouais, ça aurait suffi.
Parce que justement, il est déjà de base un gars qui ne sourit jamais, qui a aucune expression de visage. Et en fait, voilà, il a deux expressions dans le film. C'est soit je suis énervé, soit je souris. Et c'est du gâchis de Nicolas Cage. Complètement. Il n'y a aucun moment de folie, nulle part. Parce qu'il est trop sérieux. J'ai eu aucun moment où j'étais content de le voir à l'écran, en fait. Aucun.
Ouais, il y a plein de moments où il se ridiculise un peu.
C'est vraiment. Alors, on commence notre troisième saison, finalement, on va se placer comme ça, avec un film qui est probablement le plus bas qu'on ait vu depuis mais bien longtemps, quoi. Je sais même pas comment je le noterais. Parce que avant qu'on parte sur la note, je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur cette performance?
Franchement, non. Juste un dernier truc sur le film.
Oui.
En fait, c'est bizarre parce que c'est un remake américain par les réalisateurs de l'original. Mm-hmm. Mais je sais pas, j'ai l'impression. Alors, ça vient du coup peut-être pas d'eux. Mais le film, il fait très américain dans sa façon de voir la Thaïlande. Tu pourrais très bien imaginer que c'est que des Américains qui ont réalisé le remake. Tu sais, justement, entre les différentes scènes et tout, t'as vraiment un peu un côté tourisme.
Oui.
Et je sais pas, dans plein de trucs, je sais pas, ça fait. Alors que c'est réalisé donc par des réalisateurs thaïlandais. Mais je sais pas, c'est. Ça a l'air cliché alors que c'est fait. Alors, mais après, voilà, s'ils n'ont pas eu la main sur le scénario, machin et tout, voilà. Bon, c'est juste le dernier truc que je voulais ajouter.
Ouais.
Mais oui, on peut regarder pour la note. Et effectivement, ça va pas être. Ça va pas côtoyer les sommets, on va dire.
Non, c'est super difficile, quoi, parce que.
Sur la folie, déjà. Voilà.
J'ai pas l'impression qu'il y a des efforts, quoi. Pour moi, il n'y a pas de folie, quoi. C'est super dur.
Non,
quoi.
Puis on a l'impression qu'il s'en fout.
Ouais, un peu. Puis tu sais, genre, enfin, moi je me. Tu sais, bon, je prends toujours notre magnifique point de référence au plus bas qui est littéralement The Boy in Blue. Je vais dire quelque chose que j'aurais jamais osé dire de ma vie. Je crois que j'ai préféré The Boy in Blue. C'est difficile à dire ça. En tout cas, dans sa performance, après le film en tant que tel.
Je réfléchis, mais bon, je suis pas loin de penser la même chose. Hein.
C'est violent là. Et je m'y attends. Et c'est drôle à dire, mais tu sais, en rentrant dans le. Parce que. En rentrant dans ce qu'on était en train de dire, juste de refaire le résumé, parce que tu sais, quand je suis arrivé, je suis genre, non, c'est moyen, mais c'est pas. C'est moyen, quoi. Puis juste en reparlant du truc, je me suis rendu compte, mais en fait, non, c'est pas juste moyen, c'est. Inexistant. Je suis fâché maintenant.
Bon, la folie. Qu'est-ce qu'on lui met ?
La folie, y a rien. Y a rien, y a aucun moment de folie dans ce film-là.
On avait mis 1,5 à Next, par exemple, tu vois.
Mais au moins dans Next, y a de la folie, quoi. On avait mis 1,5 à Next.
Ouais, pas grand-chose dans Next, hein.
Ouais, mais y en a un peu. Non, c'est vrai, pardon. Non, mais mec, moi j'ai l'impression
Pour moi, c'est un peu une. C'est un peu, ça rentre un petit peu dans la même case que Next.
Hein. Ah non, mais pour moi, c'est 1,5 là. Parce que tu sais, genre, j'irai jamais mettre un zéro de folie à Nick Cage parce que suffit de regarder ses yeux, il a l'air fou. Mais pour moi, il n'y a rien là-dedans.
On avait mis 1,5 à The Boy in Blue, d'ailleurs.
Ouais. Et moi, ce serait genre.
Firebird.
Ce serait 0,5.
C'est les pires notes, on n'est jamais tombé en dessous de 1,5. 1 pour. Oula, ouais, c'est un peu bizarre.
Qu'est-ce qu'on avait mis
pour 60 secondes chrono. Et 0 pour Christmas Carol, mais bon, après, c'était un peu un cas particulier.
Ouais. On avait mis 1 à Gone in 60 Seconds.
Par rapport à 60 secondes chrono.
C'est encore pire. Je te le dis, moi je mettrais 0,5.
Allez.
aucune.
Je te l'accepte.
Allez, parfait. Merci bien. J'en suis reconnaissant. Puis après, bon,
sur la performance.
Bon, sa performance, elle est. elle est basique, quoi. C'est le point zéro de la performance. Puis nous, le point zéro de la performance, c'est 5.
Ouais, moi, je trouve que c'est pas... C'est moins... C'est en dessous.
Hein. Ah ouais?
Ah ouais, ouais. Je trouve qu'il y a plein de scènes qui vont pas. Rien que la scène de la pharmacie, ça devrait suffire à lui enlever un
point. Ah non, ah ouais, non. Puis même la scène où ils se battent, là. Tu sais, où ils s'entraînent avec, avec Kong, là.
Montage.
On enlève des points.
Non, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment pas bon.
Moi, je sais pas, j'ai appris à me battre, on va dire, ça, c'est différent. Je veux plus jamais voir ça de ma vie, là. Eh, c'est mou, c'est dégueulasse, y a rien. En plus, il est jacked comme pas possible encore, là. Puis, on enlève des points pour ça.
Bon, alors, je vois qu'on a Deadpool, on a mis 2,5, ce qui est très, très gentil. On avait peur que de mettre trop bas et qu'un jour, on se sente con. Mais, ouais, on avait été très gentil.
Bah, dans ce cas-là, moi, c'est probablement... Du ouais, coup, mais parce que Deadfall, au moins, c'est fun à regarder. Mais c'est vrai que la performance, ouais, ça n'a rien à voir avec si c'est fun ou pas. C'est juste.
On avait aussi mis 2,5 à Sony, moi, qui est un peu dans le même délire. On a mis 3 à Wickerman.
Est-ce que c'est Believable?
Ah, moi, je mettrais un peu au-dessus quand même.
Un peu au-dessus de Wickerman, ouais, 3,5. Ouais.
Moi, je mettrais 3,5. Ouais. Mm. Captain Corelli,
oui, oui, là, on est dans les. Ouais. C'est ça, ouais. Parce que c'est vrai, pour moi, la performance, c'est vraiment est-ce qu'il est crédible dans ce qu'il fait? Et là, il était moyennement crédible. Ça
correspond à ce qu'on lui a demandé, enfin, à ce que le film demandait en tout cas. Ouais. Voilà, bon, du coup, ça fait. C'est pas ouf, hein?
Je vais être honnête avec toi, quand je me suis réveillé ce matin, je m'attendais pas à ce qu'on le juge aussi durement, le note aussi durement.
Ouais, mais c'est tellement mérité. Ça un peu. Des fois, tu commences, t'as vu le film et tu t'en fous un peu parce que voilà, il était pas passionnant. Mm-hmm. Et en fait, en reparlant avec quelqu'un et tout, tu t'énerves le film. Il a fait ça et tu t'engraines un peu l'un l'autre. Et tu dis, mais attends, mais ouais, c'est vrai, mais ce film m'a manqué de respect.
je vais aller lui péter les jambes. Je vais prendre un coup de batte de baseball, mon gars, c'est fini. Là.
Bon, je sais pas où ça serait placé dans notre tier list. Bon, là, il arrive un peu après, donc ça sera. Pas avant la fin de la saison, normalement, mais il n'aurait sûrement pas été très haut. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut abréger les souffrances?
Non, je pense qu'on peut abréger les souffrances de film, déjà que ça a duré pas mal longtemps. Je pense que le mot de la fin, c'est on vous conseille pas Bangkok Dangerous, même pas si. Enfin, il y a des films. Une fois qu'on aura fini, je pense, une fois qu'on aura fini tous les films, probablement qu'on fera un épisode spécial où juste on vous dit, ok, c'est quoi les films à voir de Nick Cage vraiment là? C'est quoi tous les films à voir? Bangkok Dangerous ne fera pas partie de cette liste, je peux vous l'assurer. Et puis voilà.
Ouais, bon, je parlais d'abréger les souffrances, mais il faut pas oublier que la semaine prochaine, on va parler de prédictions de Alex Proyas. Donc, pas si vite.
La semaine prochaine, dans 2 semaines, tu veux dire.
Oui, pardon. Ouh là là,
le prochain épisode.
Les gens allaient nous engueuler après, ils allaient attendre un épisode qui n'allait pas arriver. Donc, effectivement, dans 2 semaines, donc si vous voulez absolument ne pas louper cet épisode, il faut nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, c'est @CitizenCagePod. Sur Facebook et Instagram, CitizenCagePodcast. Et puis, vous abonner tout simplement aux différents flux pour avoir directement ça sur votre ordinateur, sur votre téléphone, peu importe la façon dont vous l'écoutez. Donc, vous pouvez nous suivre sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, toutes les applications de podcast type Podcast Addict. On est dans l'annuaire, donc il suffit juste de taper Citizen Cage pour nous trouver. Et puis, comme tu l'as très bien dit, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao à tous.
À la prochaine, tout le monde.